Saint Hugues de Lincoln, qui est fêté le 17 novembre. Hugues vécut de l'an 1140 à l'an 1200 en France et en Angleterre. Il fut d'abord chanoine régulier, puis chartreux, et sollicité par le roi d'Angleterre pour fonder la première chartreuse anglaise. Ensuite, Hugues fut élu évêque de Lincoln, et il estima et protégea les juifs persécutés qui manifestèrent en foule leur reconnaissance à ses funérailles somptueuses, et les rois d'Angleterre et d'Écosse tinrent à porter son cercueil. Après de nombreux miracles, il fut canonisé en 1220 par le pape Honorius III. C'est l'an, l'année 1140, que naquit, non loin de la cité de Saint-Maximin, en la région très montagneuse et couverte de sombres forêts du Dauphiné, un fils, au noble Guillaume, seigneur d'Avallon. L'on appelait déjà depuis longtemps cette vaste région du Dauphiné, de ce nom Dauphiné, qui soulignait l'habitude prise par les comtes de Vienne, qui avaient réuni de nombreux fiefs sous leur autorité et étaient ainsi devenus de puissants princes, habitude élégante et glorieuse de faire orner leur casque d'un éclatant dauphin d'or. Le dauphin, ce poisson sensible, disait-on, à la voix et à l'affection des hommes, d'une grande rapidité et d'une souple et vigoureuse agilité, est capable, selon les légendes, de sauver des navigateurs plongés dans les flots par la tempête après le naufrage de leur vaisseau. Et de ces dauphins de métal précieux, ainsi érigés sur leur casque, les seigneurs, maîtres et suzerains de ces territoires, de ces poissons subtils et intelligents, le peuple admiratif avait donné ce même nom à leur prince, que l'on appelait ainsi communément les dauphins, et l'ensemble de leur fief, le Dauphiné. C'est donc en Dauphiné, au sein de ces forêts, sur ces pentes escarpées qui sertissent d'émeraudes, l'argent scintillant des rivières au fond des vallées, en ce solide château d'Avallon que Guillaume, un vaillant chef de guerre et un fervent chrétien, eut la joie et la fierté de voir venir ce fils, qu'il prénomma Hugues. La mère de ce petit Hugues s'appelait Anne, et cette douce dame d'Avallon donna à son bébé, à cet enfant très aimé, toute la tendresse de son cœur émotif. Hélas, Anne d'Avallon avait une santé fragile. Et 8 années seulement plus tard, atteinte de fièvre maligne, elle ne put surmonter son affaiblissement progressif, malgré les décoctions d'herbes bénéfiques, et Anne mourut à la grande peine du seigneur Guillaume. Et c'est alors que messire Guillaume crut bon de confier ce tout jeune garçon, son fils Hugues, robuste et déjà gentiment turbulent, très éveillé et à l'intelligence vivace, au religieux d'un prieuré situé à quelques lieues seulement d'Avallon, le prieuré de Villars-Benoît. Et là, une quinzaine de chanoines réguliers, sous la direction de leur prieur, suivaient la règle de saint Augustin d'Hippone. Cette règle, composée tout à la fin du IVe siècle, c'est-à-dire déjà ancienne de plus de 7 siècles, organisait et vivifiait très sagement la vie de nombreux moines ou religieux, et particulièrement de ceux de ces clercs qui étaient attachés au service et au ministère d'une église et qui se dénommaient eux-mêmes chanoines. Ce nom de chanoine désignant tout clerc à cette époque qui se soumettait à une règle, le mot de chanoine étant un dérivé du mot grec « canon, qui signifie règle. Car dès l'apparition du monachisme, c'est-à-dire au IVe siècle, donc 8 siècles auparavant, de nombreux évêques, anciens moines, ont alors vivement et fortement encouragé, conforté les clercs de leur cathédrale, ou même les clercs groupés autour d'autres églises de leur diocèse, à adopter bon nombre d'éléments de la vie monastique, bon nombre de formes de vie communes. Et c'est ainsi que le grand saint Martin de Tours, mort en 397, avait autour de lui, gravitant autour et au sein de l'activité de sa cathédrale, un nombre important de clercs qui menaient habituellement une vie à caractère tout à fait monastique.